Jules Verne, 24 minutes en ballon. Chronique locale, ascension du météore, 1873. Mon cher monsieur Genet, voici les quelques notes que vous m'avez demandées sur le voyage du météore. Vous savez dans quelles conditions l'ascension allait se faire. Le ballon, relativement petit, d'une contenance de 900 mètres cubes, pesant 270 kg avec sa nacelle et ses agrès, gonflé d'un gaz excellent pour l'éclairage, mais par cela même d'une puissance ascensionnelle médiocre, devait prendre 4 personnes, l'aéronaute Eugène Godard, plus 3 voyageurs, M. de Berly, avocat, M. Merson, lieutenant au 14e de ligne, et moi. Au moment de partir, impossible d'enlever tout ce monde. M. Merson, ayant déjà fait des ascensions aérostatiques à Nantes avec Eugène Godard, consentit, quoi qu'il lui en coûtât, à céder sa place à M. de Berly, qui faisait, comme moi, sa première excursion aérienne. Le lâcher-tout traditionnel allait être prononcé, et nous étions au moment de quitter le sol. Mais on comptait sans le fils d'Eugène Godard, un intrépide petit bonhomme de 9 ans, qui a escaladé la nacelle et pour lequel il a fallu sacrifier 2 sacs de lest sur 4. 2 sacs seulement. Jamais Eugène Godard ne s'était enlevé dans ces conditions. L'ascension ne pouvait donc être de longue durée. Nous sommes partis à 5h24, lentement et obliquement. Le vent nous portait vers le sud-est, et le ciel était d'une incomparable pureté. Quelques nuages orageux à l'horizon seulement. Le singe Jack, précipité avec son parachute, nous a permis de monter plus rapidement, et à 5h28, nous planions à une hauteur de 800 mètres, hauteur relevée au baromètre anéroïde. La vue de la ville était magnifique. La place Longueville ressemblait à une fourmilière de fourmis rouges et noires. Celle-ci civile, celle-là militaire. La flèche de la cathédrale s'abaissait peu à peu, et marquait comme une aiguille les progrès de l'ascension. En ballon, aucun mouvement ni horizontal ni vertical n'est perceptible. L'horizon paraît toujours se maintenir à la même hauteur. Il gagne en rayon, voilà tout, tandis que la terre, au-dessous de la nacelle, se creuse comme un entonnoir. En même temps, silence absolu, calme complet de l'atmosphère, que troublent seuls les gémissements de l'osier qui nous porte. À 5h32, un rayon de soleil sort des nuages, qui charge l'horizon de l'ouest, et pique le ballon. Le gaz se dilate, et sans qu'aucun lest ait été jeté, nous sommes portés à une hauteur de 1200 mètres, maximum d'altitude que nous ayons atteint pendant le voyage. Voici ce que perçoit le regard. Sous nos pieds, Saint-Acheul et ses jardins noirâtres, rétrécis comme si on les regardait par le gros bout d'une lorgnette. La cathédrale écrasée, dont la flèche se confond alors avec les dernières maisons de la ville. La Somme, un mince ruban clair. Les chemins de fer, quelques traits tracés aux tirelignes. Les rues, des lacets sinueux. Les ortillonnages, un simple étalage de marchands maraîchers. Les champs, une de ces cartes d'échantillons multicolores que les tailleurs du vieux temps suspendaient à leurs portes. Amiens, un amoncellement de petits cubes grisâtres. On dirait qu'on a vidé sur la plaine une boîte de joujoux de Nuremberg. Puis les villages environnants, Saint-Fucien, Villers-Bretonneux, La Neuville, Boyès, Camon, Longeau, autant de gros tas de pierres qu'on aurait disposé ça et là pour un macadamisage gigantesque. En ce moment, l'intérieur de l'aérostat est illuminé. Je regarde à travers l'appendice inférieur que Jeanne Godard tient toujours ouvert. Au-dedans, clarté limpide, sur laquelle se détachent les côtes alternatives, jaunes et brunes, du météore. Rien ne trahit la présence du gaz, ni sa couleur, ni son odeur. Cependant, nous descendons, car nous sommes lourds. Il faut jeter du lest pour se maintenir. Les milliers de prospectus lancés au dehors indique un courant plus vif dans une zone plus basse. Devant nous, Longeau. Mais avant Longeau, une suite d'entailles marécageuses. Descendrons-nous dans ces marais? Ai-je demandé à Eugène Godard. Non, me répondit-il. Et si nous n'avons plus de lest, je jetterai mon sac de voyage. Il faut absolument franchir ce marais. Nous retombons toujours. À 5h43 et à 500 mètres du sol, un vent vif nous saisit. Nous passons au-dessus d'une cheminée d'usine, au fond de laquelle plongent nos regards. Le ballon se réfléchit, par une sorte de mirage, dans l'eau des entailles. Les fourmis humaines ont grossi et courent sur les chemins. Un petit pré est là, entre deux lignes du chemin de fer, en avant de la bifurcation. « Eh bien, dis-je. Eh bien, nous passerons le chemin de fer, nous passerons le village qui est au-delà, » me répond Eugène Godard. Le vent est vif. Nous nous en apercevons à l'agitation des arbres. La Neuville est traversée. Devant nous, c'est la plaine. Eugène Godard lance son guide-rope, corde longue de 150 mètres, puis son ancre. À 5h47, l'ancre frappe le sol. Quelques coups de soupape sont donnés. Des curieux très obligeants accourent, saisissent le guide-rope, et nous venons doucement toucher le sol, sans la moindre secousse. Le ballon s'est posé là comme un gros oiseau bien portant, et non comme un gibier qui a du plomb dans l'aile. 20 minutes après, le ballon a été dégonflé, roulé, empaqueté, placé dans une charrette, et une voiture nous ramenait à Amiens. Voilà, mon cher monsieur Genet, quelques impressions courtes, mais exactes. Laissez-moi ajouter qu'une simple promenade aérienne, et même un long voyage aérostatique, n'offre jamais de danger, sous la direction d'Eugène Godard. Hardi, intelligent, expérimenté, homme de grand sang-froid, qui compte déjà plus de 1000 ascensions dans l'Ancien et le Nouveau Monde. Eugène Godard ne donne jamais rien au hasard. Tout est prévu par lui. Aucun incident ne peut le surprendre. Il sait où il va, il sait où il descendra. Il choisit avec une perspicacité merveilleuse son lieu de halte. Il procède mathématiquement, le baromètre d'une main, le sac à lest de l'autre. Ses appareils sont admirablement conditionnés. Jamais une hésitation de la soupape, jamais une duplicature de l'enveloppe. Une corde de fracture lui permet au besoin de fendre son aérostat, au cas où le ballon, rasant la terre, demanderait à être instantanément vidé pour les nécessités de l'atterrissement. Eugène Godard, par son expérience, son sang-froid, son coup d'œil, est véritablement maître de l'air qui le soutient et qui le véhicule. Et aucun autre aéronaute, on le sait, ne peut lui être comparé. Dans ces conditions, un voyage aérien offre toute sécurité. Ce n'est même plus un voyage, c'est quelque chose comme un rêve, mais un rêve toujours trop court. Agréez, mon cher monsieur Genet, etc. Jules Verne.